l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Laurent et puis bonjour Serge. De retour après quelques semaines d'interruption.
Je suis plus lourd de quelques grammes.
Voilà. Oui, parce que l'inactivité, je suppose.
Non, une plaque de titane.
Ah, une plaque de titane. Et oui, on a raconté les péripéties de Serge à vélo en Italie.
Sur le lac de Garde.
Voilà. Enfin, tout a l'air de rentrer dans l'ordre.
Ça va.
Bon, c'est très bien. Alors, petite clin d'œil à l'actualité, on va faire un peu court. Il y a un rapprochement entre deux grands quotidiens en Italie, là, c'est la Stampa et la Repubblica, qui vont se paxer.
Ah oui, ils vont se paxer.
Ouais. Non, donc on parle d'une fusion qui a l'air de prendre forme. Alors la Repubblica et la Stampa sont deux des grands journaux italiens. La Stampa est dans le Piémontais.
Je pensais que la Repubblica était plus journal d'opinion que la Stampa.
Oui, alors, clairement, la Repubblica est située à gauche. Maintenant, certains diraient centre-gauche. Maintenant, il faut faire attention
quand on
dit gauche
ou
droite, parce que tout de suite, on déclenche des levées de boucliers, que ce soit en Italie ou en France, d'ailleurs. Pareil. Certains disent, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, c'est tous des... Et voilà. Et la Stampa est moins un journal d'opinion, c'est un journal piémontais, effectivement, de longue date. Hein. Et voilà. Ah bon, après, on a des regroupements dans le monde de la presse qui sont parfois curieux.
Hein. Oui, c'est vrai.
Surtout quand derrière, il y a des mannes financières, quelquefois, c'est un peu surprenant.
Des Rothschild, l'idée.
Voilà, des choses un petit peu bizarres. Si vous arrivez à vous y retrouver, vous êtes très fort. Voilà, hormis cette fusion, on va dire, de la presse, la presse écrite, hein, comme de partout... Elle souffre hein, avec l'Internet et puis tous les médias autres. Sinon, en Italie, mais on en parlera tout à l'heure, on parlera du Pax à l'italienne.
Exactement.
Et puis, on a plutôt parlé en France de l'Italie à propos du Jobs Act, puisque M. Hollande...
Qui a déjà un an en Italie.
Qui a déjà un an. M. Hollande est allé trouver M. Renzi pour un sommet, on en parlera aussi tout à l'heure.
Venise.
Et voilà. Et on avait développé au début du Jobs Act, donc on ne va pas le redévelopper, qu'est-ce que c'était ce Jobs Act de Matteo Renzi. Alors pourquoi on en reparle? C'est parce qu'en ce moment
c'est
en France...
C'est l'équivalent de la loi sur l'emploi.
Alors, là aussi, si la loi du travail M. Conry, qui déjà, je crois, est débaptisée, on dit qu'elle s'est inspirée du Job Act. Quelquefois, on dit qu'elle s'est inspirée de l'Espagne. Comme on met souvent en parallèle, d'ailleurs, Valls et Renzi, et le Job Act et ce que souhaite faire en France le gouvernement français, on va simplement resituer au bout d'un an le Job Act. Alors, les chiffres, comme toujours... à prendre avec la plus grande précaution. Pourquoi? Parce que tout dépend comment on veut ce qu'on veut leur faire dire. En tous les cas, le Job Act, pour faire un simple, c'est un CDI. C'est un CDI, mais à protection croissante, on peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une période d'essai de 3 ans. Dans cette période d'essai, l'employeur italien, si il rompt le CDI, il a relative facilité pour le rompre. Si il y a discrimination, c'est-à-dire que s'il est rompu pour des raisons relevées par l'employé ou le salarié qui dit que cette raison était injustifiée, c'est à lui d'en démontrer le bien fondé, la preuve en tous les cas. Et effectivement il est prouvé que c'est un licenciement abusif ou infondé, le licencié, on va dire, de toute façon a droit à une indemnité suivant l'ancienneté qu'il a dans ces 3 ans, on va dire. Hein. Et cette indemnité peut aller de 4 à 24 mois de salaire suivant le moment où il a été licencié. Voilà. Donc disons que c'est une ce qu'on a l'habitude d'appeler une flexi-sécurité. Bon, les décrets du ministre du Travail Poletti qui avaient été signés en 2014, eux, avaient facilité l'usage du CDT en développant l'enchaînement 5 fois de suite.
Le CDT, c'est
quoi ? Le CDD.
Ah, CDD.
CDD, 5 fois de suite pendant 36 mois. Bon, on parle surtout de ce CDI Jobs Act. Mmh. Alors, quels sont les résultats ? Parce que ce qui est intéressant, c'est surtout de voir s'il y a des résultats.
Si ça a eu un effet sur l'emploi.
Si ça a un effet. Alors, l'effet sur l'emploi, quand on prend les résultats de l'Italie, ça a l'air d'être, j'allais dire, évident à première vue. Faut toujours ajouter à première vue. Parce que, bon, l'Italie renoue avec la croissance, ce maître mot dont tout le monde réclame des chiffres importants pour pouvoir, paraît-il, faire un sort à la crise. Bon, croissance ou pas croissance.
À la situation.
La situation.
Une crise, ça dure un petit moment.
Voilà, mais la situation, on dit qu'il faut qu'il y ait de la croissance. Bon, ouais. On peut en débattre. Mais enfin, la croissance en Italie, donc, puisque c'est le but de tout pays européen, a effectivement est redevenue positive après trois ans de récession. Et le déficit a baissé, il est passé de 3 à 2,5%, c'est son niveau le plus bas depuis 2007. Et le chômage, lui aussi, a baissé d'1% en un an. Et il a eu des créations d'emplois. Alors, dans les créations d'emplois, les chiffres, là, déjà, sont tout petit peu différents. Quelquefois, on entend plus de 200 000. Quelquefois, on entend 300 000. Ce qu'il y a de sûr, c'est que
quelquefois 22, non?
Non. Ce qui est sûr, c'est que le chômage a reculé, oui, et qu'il y a eu des emplois. Alors après, effectivement, il faut regarder peut-être de plus près et il faut se dire que l'Italie, bon, c'est pas la situation espagnole, hein, qui est la situation espagnole était dramatique, plus de 20% de chômage et tout. Alors en Italie, le nombre de chômeurs était en fait assez bas en 2007. Puisque, enfin, c'est toujours beaucoup trop important, mais à l'époque, il y avait 1 500 000 chômeurs en Italie. Et d'ailleurs, à cette époque-là, le chômage était moins élevé en Italie qu'en France.
Hein. Oui.
Et puis le nombre a beaucoup cru, s'est accru, et il est arrivé en janvier 2014 à 3,3 millions, grosso modo, hein. Soit, en 7 ans, une hausse de près de 2 millions de chômeurs, hein, 1,8
million. Ça doit être 11%.
Voilà. Alors maintenant, il est effectivement considéré à 11%, il avait dépassé les 12%. En France, on est à 10 et quelques, donc c'est vrai que c'est assez proche. Hein. Et même si la France a priori un peu moins de chômeurs en pourcentage. Bon, alors après, c'est donc là où l'analyse devient moins évidente. Est-ce que effectivement c'est dû au Jobs Act? Est-ce que c'est dû au fait que le chômage s'était tellement envolé qu'il y a bien un jour, il faut peut-être qu'il recule. Oui.
Après,
en tous les cas, il a reculé. On peut pas dire qu'il
a reculé.
Mais
c'est quel est le facteur qui a fait reculer?
Voilà. Alors il y a aussi
déjà les économistes professionnels.
Non, ils peuvent pas. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord de toute façon là-dessus. Après, on connaît le problème des jeunes en Italie, et ce problème des jeunes et l'emploi des jeunes reste toujours complètement sur les bases de l'année passée. Alors je sais qu'il a créé, il a souscrit, je crois que c'est 700 000 contrats jeunes, disait Renzi. Mais a priori, bon, leur emploi reste quand même très difficile. Tout dépend des régions, encore une fois, et du type de voie suivie. Hein. Après, le problème de l'Italie, c'est aussi le problème de la productivité. Alors certains disent, oui, mais ce qui a incité les patrons à embaucher, c'est pas cette sorte de flexibilité, mais c'est parce que ils ont une incitation financière, une subvention de 8000 euros par contrat et par an pendant 3 ans.
Ah oui.
Bon, 8000 euros, oui, ça peut l'expliquer.
Ça commence à être significatif.
Mais c'est significatif s'il embauche beaucoup,
s'il
c'est
embauche.
Sûr. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que est-ce que c'est réellement la même chose que
l'esprit
c'est
même.
Surtout dans l'esprit, c'est de se dire il y a du chômage, il faudra bien trouver un jour des solutions et tout le monde essaye de les trouver. Et comme toujours, quand il y a des propositions, il y a des propositions, ceux qui les font ont l'air d'y croire, ceux qui les contestent ont l'air d'y croire aussi dans l'autre sens.
Pareil, c'est un autre
mais
point commun.
On revient au point de départ, c'est-à-dire qu'il y a quand même une crise et qu'il faudra bien un jour essayer d'en sortir.
C'est pas une crise.
C'est pas une crise. Le mot crise, j'aime bien ta définition. D'ailleurs, je vais te demander de la.
J'en ai marre d'entendre parler.
Voilà,
de crise.
Mais je sais, c'est pour ça que j'agace un peu.
Mes enfants qui ont 40 ans, ils ont toujours entendu parler de crise.
Sérieusement, c'est vrai en plus ce que tu dis.
C'est structurel.
Vrai. Voilà. Donc, surtout que la crise n'est pas pour tout le monde. Hein. On est bien d'accord.
Oui. Bah, c'est structurel aussi, hein, l'augmentation voilà. des dividendes.
Voilà. Donc, voilà pour l'actualité italienne. Si vous voulez.
Une petite parenthèse sur le sommet de Venise.
Voilà, puisque à l'occasion de ce sommet, on a reparlé du Jobs Act. Hein.
Alors, au sommet de Venise, donc, c'est un sommet franco-italien, comme il y en a entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne régulièrement. Et le TGV Lyon-Turin a été un sujet, cette fois-ci encore, d'ailleurs, c'est un sujet récurrent depuis 15 ans. Depuis 15 ans, on en parle. Mais ce coup-ci, c'est le bon ou le mauvais, selon qu'on soit pour ou contre le TGV. Donc, des travaux ont bien eu lieu jusqu'à présent. C'était des tunnels annexes, des forages, de la préparation, mais enfin de la préparation à coup de milliard. Là, c'est pour lancer les appels d'offres pour faire la galerie principale. Alors, ces appels d'offres sont faits selon les normes anti-mafia. J'ai vu ça, mais j'ai commencé à regarder dans le détail. Ça m'a pas paru très opérationnel, donc j'ai pas été plus loin. Mais c'est fait selon les normes anti-mafia. Alors, le coût, dans ce que j'ai vu dans la presse, le coût est stable, 8,4 milliards d'euros. Mais qui, une fois actualisé, deviennent 10. Mais
enfin, ouais, le coût est stable. J'ai beaucoup aimé, dans les grands projets, le coût.
Oui.
Parce qu'on a beaucoup de surprises. Hein. On n'est pas très loin d'ici. On connaît un des grands coûts. C'est toujours extraordinaire, les coûts des grands projets.
Ouais. Voilà, donc le TGV Lyon-Turin, bah, on peut dire, est parti.
Oui,
c'est peut-être pas pour ça qu'il sera, comment dire... performant, mais
alors ici, est-ce qu'il va le passer sur l'île d'Abeau? Est-ce qu'il va passer à Saint-Marcel? Est-ce qu'il va passer à Saint-Savin? Les tracés, c'est à suivre aussi.
C'est à suivre aussi.
Voilà, ben on va écouter une première chanson. Alors, on a récemment fait notre édition, la quatrième édition de Chansons de Femmes. Et on a fait venir cette année Monique Tréhard, on en avait parlé dans notre dernière émission en annonce, et qui est une chanteuse, auteur, compositeur, interprète et qui chante beaucoup de titres de la chanson française, et qui est vraiment quelqu'un d'intéressant et qui vient de Haute-Savoie. Et puis on a fait venir, accompagnée d'ailleurs par une violoncelliste vraiment très intéressante elle aussi, Cécile, et on a fait venir Jua. Alors Jua est une jeune génoise, Gênes est une grande école de la chanson d'auteur, et ma foi, elle est très très intéressante, et elle compose, écrit ses musiques, ses propres chansons. Dans la vie, elle est très amie à Paco Ibanez, qui est un grand de la chanson espagnole, elle est très amie de Jean Maria Tess, tout ce milieu donc se connaît bien, et elle est venue là avec son guitariste, qui était son prof de guitare au départ, Armando Corsi, qui est vraiment une grande pointure à la guitare. Alors, on va écouter deux titres d'elle aujourd'hui. La première chanson, elle rejoint un petit peu tout ce qu'on vient de dire et ce qu'on développera plus tard. C'est-à-dire, la chanson s'appelle Tutti vanno via dall'Italia. Ils quittent tous l'Italie. Hein. Alors, elle parle là de la fuite des cerveaux et surtout des jeunes. Hein. Donc on parlait du problème des jeunes. Alors ils quittent tous l'Italie. Oui, tout le monde quitte l'Italie avec la torpedo bleue courir vers Tombouctou en Italie. Ceux qui restent ne savent même plus pourquoi ils quittent l'Italie. Oui, tout le monde quitte l'Italie et ceux qui restent ne savent pas comment ils feront. Le problème est qui reste et qui s'en va. Et puis elle parle donc de quelqu'un de sa famille qui est à Paris. Et elle parle de ses cerveaux, donc de ce pays qui organise entre guillemets la fuite des cerveaux, enfin qui entraîne la fuite des cerveaux. Elle a bien précisé sur scène qu'elle sait que c'est un problème tout à fait européen et pas seulement italien. Et puis, mais bon, son espoir, c'est que s'ils quittent l'Italie, ils y reviennent aussi. Elle dit, tous quittent l'Italie, mais que tout le monde revienne ici en Italie, malgré tous nos malheurs, avec la force de ceux qui ont envie, plus que jamais. C'est aussi une chanson d'espoir, mais ça situe bien, elle qui est jeune, donc elle a un peu plus de 30 ans, le problème actuel de la fuite des cerveaux dans tous les... époque des cerveaux d'ailleurs, dans tous les pays, même européens. Giua.
Che mal di testa, il frigo vuoto, un nodo in gola, e per la radio non c'è niente che consola un nuovo sodo, che bolle solo, e per la casa la tormenta dell'attesa, che consuma una candela e la sua cera. Che brutta c'era la mia faccia questa sera e mia sorella. C'è un fidanzato, sta a Parigi, ma è pugliese, un esiliato da questa terra. Che mette in fuga chi ha cervello, chi ha talento e non chiede neanche scusa. Tutti vanno via dall'Italia, se tutti quanti vanno via dall'Italia. O la torpedo blu correndo a Timbuktu. Italia chi ci resta non lo sa nemmeno più perché vanno via dall'Italia, se tutti quanti vanno via dall'Italia e chi rimane non sa, non sa come farà, il problema è di chi resta e di chi va. Che mal di testa, il freezer vuoto. E mi rimbomba un'idea che non mi piace la paura che fa 90. È la paura del lavoro, del futuro che ci manca garantito. Non c'è niente, proprio niente garantito. Quel che è nostro ancora il tempo e la voglia di un invito per questa Italia. Per le sue strade e le sue case che profumano di libri e di pensieri per la mia Italia. Svergognata, a me resta ancora voglia di provare a costruire. Tutti vanno via dall'Italia, se tutti quanti vanno via dall'Italia. Con la torpedo blu correndo a Timbuktu. E in Italia chi ci resta non lo sa nemmeno più perché. Vanno via dall'Italia, se tutti quanti vanno via dall'Italia. E chi rimane tante volte devo andare via, tante volte mi son detta questa terra non è mia, ma alla fine parto e torno con un'idea. Voglio stare qui a cantare perché questa è casa mia. Tutti vanno via dall'Italia, se tutti quanti vanno via dall'Italia. Con la torpedo blu correndo a Timbuktu. E in Italia chi ci resta non lo sa nemmeno più. Dall'Italia, torniamo tutti quanti qui in Italia, con tutti i nostri guai, col coraggio di chi ha voglia più che mai.
Giua. Voilà, donc à toi Serge maintenant.
Donc un sujet d'actualité qui est le Pax italien, qui en italien s'appelle Unione Civile. C'est d'actualité parce que ça a été voté au Sénat et pas encore à la Chambre des députés.
Alors que le Sénat, a priori, est plutôt
défavorable. Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on peut dire que le texte sera adopté.
S'il est adopté au Sénat, c'est quasi sûr.
Alors, concernant les couples homosexuels, le texte s'appelle en français la formation... J'ai dû me tromper. Formation sociale spécifique. Il a un nom différent,
oui, enfin, peu importe.
Donc, il a été adopté au Sénat, où Matteo Renzi n'est pas majoritaire. Donc, il reste à être adopté à la Chambre, donc il le sera. Donc, la situation de la France et de l'Italie est à peu près semblable en ce qui concerne le mariage des couples hétérosexuels. En gros, le taux de nuptialité, c'est-à-dire tout simplement le nombre de mariages rapportés à la population, a divisé par deux depuis 40 ans. C'était 8%, c'est 4% maintenant à peu près. Donc la situation est à peu près la même. En France, bon, on le rappelle, le Pax date de 1999, donc il est assez récent quand même. Et en Italie, donc la loi est passée au Sénat. Il faut dire que l'Union européenne avait, au mois de juillet dernier, la Cour européenne des droits de l'homme avait incité Rome à se doter d'un instrument juridique pour répondant, aux besoins essentiels relatifs à un couple de personnes de même sexe engagées dans une situation stable, puisque l'Italie était un des derniers pays à s'être doté d'une telle loi. Alors, l'Italie apparaît un peu à la traîne de l'Europe, mais en fin de compte, le débat a commencé dans les années 86 et 88. Il y a eu des premières propositions de loi pour la reconnaissance des unions civiles, y compris les couples homosexuels, mais ces propositions de loi n'ont jamais été inscrites à l'ordre du jour d'un des deux assemblées. Donc, il a fallu attendre 96 à 2001 où là, il y en a eu au moins une dizaine qui a été présentée, même chose, ils ne sont pas encore arrivés à l'ordre du jour, tant sur des gouvernements de gauche que de droite, puisque Berlusconi, lui, était assez favorable à ce genre de loi. En 2004, donc, il y a eu un projet de loi de Franco Grillini qui est arrivé en commission. Donc il a fait un petit pas supplémentaire à la Chambre des députés. Donc en 2007, Renzi s'était opposé au projet d'union civile du gouvernement de Romano Prodi, parce que Renzi est quand même un fond assez catholique.
D'inspiration démocrate chrétienne.
Voilà. Donc on voit que l'historique, c'est pas une loi qui est arrivée d'un seul coup comme ça en Italie. Et en France, les dates sont un peu différentes, mais ça a été exactement la même chose.
Et puis il y a un poids de l'Église. Hein,
voilà. Alors bien sûr, les opposants, c'est essentiellement l'Église qui, comme en France pour le mariage pour tous, a organisé une grande manif à Rome le 30 janvier. D'après ce que j'ai compris, il n'y avait pas ce fond politique qu'on a pu trouver en France. Quoi. C'était plus, moi, ça m'a paru plus centré sur la loi et pas sur une contestation
à la
générale.
Frigide Barjou.
Voilà. Alors le pape, alors la loi a été votée au Sénat le 8 février, donc la manif était le 30 janvier, et le pape a déclaré le 28 janvier « Il ne peut y avoir de confusion entre la famille et tout autre type d'union ». Donc c'est synthétique, pas de grand discours, mais enfin ça dit bien ce que ça veut dire. Donc la loi, qu'est-ce qu'il y a dedans rapidement ? Donc pour bénéficier de cette loi sous forme de contrat, il faut être un majeur capable sans lien consanguin, faire enregistrer l'union par un officier d'état civil et accompagné de deux témoins, et le couple peut choisir son régime patrimonial, c'est-à-dire une communauté de biens ou une séparation, donc ça ressemble vraiment à un mariage. Alors les contractants s'engagent à vivre sous le même toit, à contribuer réciproquement aux besoins de la famille, à la fidélité, à l'assistance morale et matérielle. Donc rien de très original là-dedans, puis je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Les droits sont les mêmes que le mariage en ce qui concerne l'héritage qui va en priorité au conjoint survivant, la pension de reversion. Alors la pension de reversion existait déjà pour les journalistes. Et puis une autre profession, je crois.
Pour des catégories sociales.
Le conjoint survivant du titulaire d'un contrat de bail pourra être maintenu dans les lieux, puisque là, comme c'est deux personnes différentes, il pouvait être exclu. Et l'adoption peut se faire par l'un des conjoints de l'enfant de l'autre. Donc la loi sera votée au Sénat. À la Chambre des députés. Donc c'est vrai que la loi paraît arriver bien tard du fait du poids de l'Église en Italie.
Comme tout se fait par petits pas.
Tout se fait par petits pas. Donc le handicap était quand même, du fait de l'Église, assez important en Italie. Ouais. Ils y sont arrivés. Moi, je crois qu'il faut voir les choses dans ce sens-là.
Et en plus, par un leader, il n'y a pas que lui, politique, qui est, comme tu le soulignais, d'inspiration religieuse, comme voilà. De confession. Oui. Voilà. Alors, on va écouter un deuxième titre, peut-être, de Joe. On va écouter « E improvisamente », qui a donné son titre à l'album. Album qui vient, mais qui vient vraiment de sortir et dont on a eu le privilège à Bourgogne-Jallieu, s'il vous plaît.
C'est une première mondiale.
Voilà. Non. Alors, « E » donc, « à l'improviste ».
La luna sul vetro, elettrica appare e scompare nel nero, montagne rincorrono strade sospese, raccontami ancora cosa si vede oltre il punto lontano, dove nascono i giorni, cosa c'è più lontano di quello che vedo. Oltre il punto lontano, dove nascono i giorni, cosa c'è?
E viaggiando improvvisamente, la mia faccia sul vetro, insegue risaie che vanno all'indietro. L'estate bombarda, settembre nel cielo, tu parlami ancora che ancora non vedo. Oltre il punto lontano dove nascono i giorni, cosa c'è più lontano di quello che vedo? Oltre il punto lontano dove nascono i giorni, cosa c'è?
Sarà terra sottile che ricopre le cose e fa nascere sotto la neve. Sarà limite incerto di quello che accade, anche quando sappiamo, anche se non vogliamo. Terra sottile, limite incerto, porta
presente aperto.
Presente aperto.
Voilà, vous avez reconnu notre jingle, c'est comme ça qu'on dit, Laurent, sur Couleur FM 97.1. Hein. Donc, voilà, on continue nos séquences sur l'immigration en Haute-Isère. Alors, qui a eu déjà une concrétisation par comment on appelle ça, un récit en direct accompagné de musique et qu'on a appelé Mémoire d'Italie et qui s'est déroulé fin février au foyer de Nivola Vermel. Alors il n'était pas cette avant-première presque n'était pas publique, elle était réservée aux adhérentistes, à quelques invités et évidemment à toutes les personnes qui ont bien voulu nous recevoir et témoigner sur leur arrivée en France ou l'arrivée de leur famille. Et donc cette première, le foyer de Nivola était plein, était fort intéressante. Et donc Micheline Duplan, qui fait partie de notre groupe Immigration, je rappelle qu'il y a un groupe Immigration qui travaille dessus à l'intérieur de l'association UNIS, avec Dominique Molin, on travaillait sur le texte. Et ils étaient accompagnés par donc Päivi Kokkonen et Jacques Boyadjan, Jacques au violon et Päivi à l'accordéon. Et ce récit c'est en plusieurs tableaux en fait, et avec des personnages qui racontaient leur histoire. Et bien ma foi, c'était bien intéressant. Alors quand puisque dans notre groupe de travail, on a plusieurs types de déclinaisons de propositions. Celle-là, Dominique et Micheline, au départ, on ne savait pas trop comment prendre, par quel bout prendre les récits. D'ailleurs, en introduction à la soirée, Micheline Duplan rappelait que, au mois de mai, elle avait commencé à faire des pages et des pages de lecture. Elle voyait des vies qui défilent. Elle avouait même un certain découragement parce que qu'est-ce qu'il fallait faire de ces témoignages, il faut choisir, respecter, que cela soit vivant, émouvant, c'était une évidence, léger en même temps, elle a relu, elle notait ce qui la faisait sourire, ce qui la touchait, ce qui l'étonnait, mais au début, elle ne voyait pas tout de suite comment le faire. Et puis petit à petit, comme un puzzle, les morceaux de vie sont emboîtés, des souvenirs, ses propres souvenirs aussi. Et avec Dominique, donc, ils ont passé tout l'été, enfin une grande partie de l'été, le soir notamment. Alors elle ajoute devant un petit verre de vin rosé bien frais, ça c'est pour l'anecdote. Et le texte est né, coloré bien sûr après par la musique de Päivi et Jacques. Voilà. En tous les cas, il est possible que ce Mémoire d'Italie, on sait que suite à la soirée, plusieurs le demandent pour l'avoir dans leur commune. Sachez qu'il y a quelque chose de créé. Et, qui sait ? Qui le sait, comme on dit en Italie. Voilà. Alors, toi, Serge, aujourd'hui, tu vas nous proposer quelques enregistrements.
Alors, j'ai plongé aussi dans la trentaine d'enregistrements qui ont été faits il y a quelques années. Moi-même, j'en ai fait quelques-uns. Et j'ai choisi de parler du thème du logement. Alors, j'ai choisi ce thème tout simplement en voyant les réfugiés actuels à la télévision. Mmh. Et le logement est très important dans cette période de déstabilisation.
Contact,
exactement. Parce que c'est le logement lui-même, mais toutes les conditions qu'il y a autour. C'est-à-dire que les gens qui ont immigré entre, on va dire, les années 20 et les années 60, ils passent généralement de la campagne à la ville, puisqu'ils ont beaucoup sont partis suite à leurs conditions de vie et leur pauvreté. Une vie qui se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire dans les champs, et là, ils passent une vie à l'intérieur, dans le logement, dans l'usine. Et parfois, ce logement est à partager avec d'autres familles. Et puis, on va voir un cas où le foyer a construit sa maison. Alors d'abord, Madame Martelletti nous parle du village nègre de Lyon. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était le village nègre de Lyon. Donc, j'ai cherché dans l'outil que tout le monde connaît en ce moment. Alors, le village nègre de Lyon, c'est le quartier des États-Unis à Lyon. J'ai trouvé deux versions. Entre ces deux versions sur l'histoire du quartier nègre, seul le quartier est sûr, c'est le quartier des États-Unis dans le 8e. Mmh. Donc la première version est la suivante. Avec la Première Guerre mondiale, les Américains ont installé une base de 10 000 GI. Ensuite, cette base a été abandonnée après l'armistice. Les baraquements ont vite été investis par des familles démunies d'origine italienne ou russe. Et on appelait ça le village nègre parce que les GI étaient majoritairement noirs. Et donc, ils avaient séjourné plusieurs années ici. Et en 1936, on décida de baptiser le site du nom du quartier des États-Unis, allusion donc à cet ancien camp GI. Alors, la seconde version, c'était un conglomérat de baraques en bois abritant, dans les années de l'entre-deux-guerres, une centaine de familles venues d'Italie ou d'Espagne. Ce quartier était à proximité de la cité Tony Garnier. Et il a été rasé juste avant la Seconde Guerre mondiale et n'a laissé aucune trace et aucun souvenir dans les gens du quartier. Enfin, je connais un petit peu, c'est un quartier qui est assez récent, moderne.
Oui, tout à fait.
Donc, Madame Martelletti va nous parler de son arrivée dans le quartier nègre de Lyon.
Mon père, qui travaillait à la maçonnerie, donc à la halle Tony Garnier, et donc chez Mélie, les saucissons Mélie, avenue Berthelot, a été chargé de trouver un terrain. Alors il a trouvé un terrain vers les États-Unis. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas les États-Unis. Et donc ensuite, nous avons été... Moi, je suis née 127 rue Professeur Beauvisage. Et mon papa, c'est lui qui a bâti la première maison. Il est allé pour avoir le terrain. On lui a dit, c'est à vos risques et périls, vous avez ce terrain, il ne l'avait pas acheté, vous louez ce terrain pour la ville, mais c'est un terrain d'hospice, vous pouvez y rester un mois comme vous pouvez y rester 200 ans. C'est à vos risques et périls, alors faites comme vous voulez. Alors aussitôt qu'il a eu trouvé ce terrain, les autres Italiens sont tous arrivés, les uns derrière les autres, de bouche à oreille. Ça s'est dit qu'il y avait un quartier qui s'était formé. Donc, ils sont arrivés, tous les Italiens, là.
Du même village ?
Non, pas tous du même village. Il y en avait de partout. De partout, de partout. Mais tout le monde s'entendait très, très, très bien. Et dans le fond, après, quand ce village a été instauré, donc on appelait ça le village nègre. Moi, je suis née au village nègre. Il n'y a pas de problème. C'était comme ça. Et ensuite, dans le fond du village nègre, il y a une église en bois qui s'est montée. Donc le père Lavareil qui venait dire la messe et les demoiselles apprenaient à tous ces émigrés à coudre et à faire de la couture, à faire nos chemises. À ce moment-là, on mettait des chemises avec des boutons dessus, alors les points de côté, à broder et tout ça. Et les garçons, il y avait un terrain de foot pour jouer au foot. Et il y avait aussi une école italienne qui s'était formée. Voilà. Et ensuite, nous avons donc agrandi le village nègre, comme on dit. Et après, l'église de Saint-Jacques des États-Unis s'est construite. Et moi, j'ai été m'amuser avec le sable dans l'église des États-Unis. Et on a travaillé dans cette maison tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a travaillé comme des nègres. Mes parents ont travaillé comme des nègres. Parce que toutes les fois qu'ils avaient un petit centime, ils achetaient un sac de ciment. Et mon papa avait fait un moule pour faire des moellons. Et alors, avec mon frère, on allait aux États-Unis où ça se construisait, où il y avait une locomotive qui arrivait, qui déchargeait le charbon. Donc, il y avait du coq et il y avait de l'anthracite. Alors, mon frère, il emmenait le coq. Et moi, je prenais l'anthracite pour faire bouillir la marmite à la maison. Et donc, avec le coq, mon papa faisait ça avec le ciment et il faisait des moellons. Et tous les soirs, il faisait ses moellons. Et quand il en avait 10 ou 15, le samedi, qu'il ne travaillait pas, il montait sa maison. Allez. Et tout le monde faisait pareil. Parce qu'on avait, au début, quand on habitait, on avait une maison, il l'avait faite en planche. Et il l'avait fait un peu comme les émigrés de maintenant, avec de la tôle ondulée. Pas de la tôle ondulée, comment qu'on appelle ça, du papier goudronné, mais qui avait des petits cailloux dessus. Je me rappelle de ça, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc on avait ça. Et puis au fur et à mesure que mon papa avançait dans ses moellons et dans son travail, on on enlevait la tôle ondulée et on avançait.
On ajoutait une pièce.
Et on n'avait pas d'eau. Ma maman faisait sa lessive, faisait bouillir la lessiveuse. Et le soir, quand elle rentrait de travailler, parce qu'elle travaillait chez Mélie, et quand elle rentrait le soir, il y avait une pompe carrément au bout du pays qu'on tournait comme ça, vous savez, une fontaine. Et alors nous, on tournait la fontaine et elle rinçait son linge.
Voilà, donc ce témoignage qui m'a beaucoup interpellé parce que il y avait de la place. Et alors les gens se sont renseignés pour savoir s'ils pouvaient construire. On leur a dit c'est à vos risques et périls, vous pouvez être viré demain. D'après ce que j'ai compris dans l'interview, c'est les hospices de Lyon qui avaient récupéré le terrain. Donc c'était une sorte de présence provisoire. Plutôt que rien, ils ont fait leur bâtiment petit à petit en parpaing, avec du mâche-fer. Je pense que le coq, c'est du mâche-fer que l'on mettait dans le ciment à l'époque. Voilà, avant le témoignage suivant, une troisième chanson, Alain.
Oui, alors on va écouter une
chanson. On va l'écouter sur Couleur FM.
97.1, bien sûr, et qui va devenir la radio de l'immigration italienne bientôt. Ouais. Alors voilà, on va écouter un texte, une chanson qui est sur un texte de Bixio et Cherubini, sur une musique de Vitaliani. Ce sont des auteurs qui ont beaucoup écrit sur l'immigration italienne. Souvent entre les deux guerres d'ailleurs. Alors cette chanson, elle reprend toutes les caractéristiques, les stéréotypes de l'immigrant qui est toujours qui a toujours dans son cœur la patrie et la mère, sa maman, et toujours les mains tendues vers la terre qu'il a dû quitter. Et c'est une allusion aussi à ce que voulait le fascisme au départ, mais ça lui a survécu. C'est-à-dire, c'est un régime qui se moquait complètement de l'expatriation de ses citoyens pour le travail, puisqu'ils étaient obligés de quitter souvent parce qu'il n'y en avait pas du travail, et qui avait donné à chacun un manuel pour l'instruction des émigrants. Ce manuel avait été un volume de 600 pages.
Oula.
Mais qui était donné à des gens dont la plus grande partie savait pas lire. Donc c'était très intéressant comme truc. Et ils appelaient ça le pont d'amour et de protection que la patrie donne à ses enfants pour qu'ils la rappellent et l'honorent toujours où qu'ils soient. Et donc voilà, cette chanson s'appelle le Foxtrot della nostalgia, de la nostalgie donc, et elle parle surtout d'immigrants qui sont allés en Argentine, qui est sans doute l'une des plus grosses terres d'immigration italienne. Oui.
Sulla sponda argentina una folla cammina, far sorridere al mare un confuso vociare, il piroscafo è là. Tornan via gli emigranti della patria sognanti, dopo il crudo lavor, con un bruzzolo d'or, con in cuore l'ansietà. Oh, la nave silente, lieve un canto si sente, no, non dormono più, ma si sveglia lassù, con lo sguardo lontano, sorge al fin quell'aurora, ecco un lembo che sfiora, è l'Italia, ma sì, tutti in piedi son lì, che protendono.
Terra, terra nostra d'amore.
Voilà, alors cette chanson, elle est tirée de l'album Canti dell'immigrazione italiana de Gualtiero Bertelli, qui a aussi beaucoup travaillé, Gualtiero, avec le Monsieur Radici dans la région de Toulouse. Gualtiero, qui est un ami chanteur dont on a parlé souvent et qui nous vient de la région de Venise. Il a fait ce disque avec la Compagnia delle Acque, avec Cecilia Bertelli et Elena Barsibetti, notamment au chant que l'on vient d'entendre. On continue avec quelques échos de ce qu'on a...
Toujours sur le thème du logement, on va rester sur Lyon et à Vénissieux.
Petite anecdote d'ailleurs, c'est que on a des heures et des heures d'enregistrement et les choix ne sont pas toujours
très
évidents.
Très difficiles à faire.
Voilà, parce qu'il y a plein de choses intéressantes en fait.
Surtout en rassemblant par thème comme ça.
Par thème, hein. Oui.
Donc, Ida Gandolfi, son père s'appelait Lombardini et est venu d'abord seul. Schéma assez classique. Il a été hébergé dans des baraquements et puis ensuite il trouve un appartement et fait venir sa femme. Et alors, ce qui est très important dans cette interview, c'est la reconnaissance que Monsieur Lombardini a de la France. Donc on va écouter Madame Gandolfi qui nous parle de l'arrivée de son père.
Un an après, donc il a fait venir maman quand il a pu travailler, il a fait venir maman, mais ils étaient logés dans des baraquements avec la communauté italienne, parce qu'à l'époque, les cousins venaient, les voisins du village, tout le monde venait pour chercher du travail. Il y avait une bonne communauté italienne, et ils vivaient dans des baraquements. Au bout de quelques temps, donc, ils ont pu trouver un petit appartement en location. Quelques années plus tard, donc, il a demandé la nationalité française. Ensuite, il a demandé donc la nationalité française qu'il a obtenue en 1939. À ce moment-là, il achètera un petit terrain en pleine campagne au Minguette, qui est actuellement c'est la ZUP. Mais il n'y avait rien, c'était des champs, des champs de blé, de maïs, c'était vraiment la campagne. Et malgré son petit salaire, il est arrivé à avoir un petit bout de terrain pas cher. C'est un médecin qui lui avait cédé parce qu'il appréciait beaucoup la gentillesse et le travail de mon papa, qui était très travailleur. Donc, il lui a cédé ce petit terrain pas trop cher et il a construit sa petite maison avec l'aide de toute la communauté italienne.
Donc là, je connais bien Madame Gandolfi, c'est moi qui ai fait l'interview. Et le médecin qui leur a vendu le terrain, c'est vraiment, comme elle le dit, parce que son père était serviable, gentil et c'était vraiment impliqué dans la vie locale. En plus, M. Gandolfi a élevé ses enfants avec un grand respect des us et des coutumes du pays d'accueil, à un tel point qu'il se sentait une dette vis-à-vis de la France. Et son pays était la France, et il a transmis ceci à ses enfants. Donc Mme Gandolfi nous raconte ce qu'il est advenu de la maison quand ses parents sont morts, et alors là, on peut disserter après des heures sur les racines.
Oui, alors la maison familiale que mon papa a construite à leur décès, c'est mon frère aîné qui a pris la maison, qui nous a donné notre part. On l'a fait estimer au minimum pour ne pas trop l'assassiner. Et puis il nous a donné notre part, il a gardé la maison familiale. Ce qui fait que quand on se rejoint dans cette maison, on y est bien.
Vous aviez une attache, quoi.
Voilà, mais c'est la maison des parents. Elle a pas, on n'a pas vu des étrangers dedans. Et ça, ma sœur qui habite en face,
elle dit... Oui, c'est votre frère, votre père qui l'a construit.
Oui, ah oui, parce qu'il a beaucoup travaillé. Il faisait ça les samedis et dimanches. Avec les amis.
La maison est dans la famille depuis...
Et voilà, donc elle reste, mon frère aîné, là, qui l'a. Ma sœur a construit en face, donc elle dit « Oh là là, si on avait vu des étrangers dans la maison en face, on aurait eu mal au cœur. » On a fait qu'ils puissent la garder pour pas...
Donc là, on voit des gens qui viennent d'Italie. Le père construit la maison dans les mêmes conditions que tout le monde et ça devient le foyer, le centre.
Bien sûr.
Hein? Et donc, c'est un des enfants qui l'a gardé. Et alors, en plus, la sœur vient construire en face. Donc, c'est vrai que je suis... Moi, j'aime pas trop ce concept de racine, il y a retrouvé ses racines, etc.
Oui, parce que quelquefois, on est, mais finalement, C'est comme dans les langues, d'ailleurs. J'extrapole, mais dans les langues régionales. Les langues régionales, c'est des racines. Mmh, ouais. Et ça fait partie de soi-même. Après, qu'on peut deviser, comme tu dis, longtemps dessus.
Voilà,
là, il y a deux choses. Il y a le côté du gars qui a construit sa maison. Mais c'est un truc qu'on a entendu.
Mais souvent,
ils bossaient le samedi et le dimanche pour se construire leur maison. Mais ils n'étaient pas obligatoirement maçons, comme on nous dit.
Oui,
il y avait des maçons, effectivement. Oui. Ils étaient maçons quelquefois par nécessité aussi. Oui. Hein. Et il y avait aussi, effectivement, des maçons de métier. Puis après, les racines. Alors là, lui, ses racines, il venait d'Italie, mais ses racines, c'était aussi la maison qu'il a construite, effectivement, sur un terrain qui, lui, était en France, reconnu pour son travail. Mais ça faisait partie aussi de ses racines.
Est-ce qu'il en avait une?
Par contre, sur les racines, italiennes, on va dire, quand on a fait plusieurs interviews et quand on côtoie beaucoup de gens dans notre région qui sont évidemment d'origine italienne et qui peuvent être aussi d'origine espagnole, portugaise, mais nous, bon, là, on s'est intéressé par le biais de notre association à l'immigration italienne, c'est que souvent... Moi, j'ai noté, c'est souvent où la génération qui est venue n'en a essayé d'être assez discrète avec les enfants sur leur propre vécu. Bon, les enfants n'étaient pas dupes, ils s'y intéressent aussi. Et quelquefois, la deuxième génération qui est, elle, on a l'impression s'en moquer complètement, eh bien, après la disparition de ces anciens, eh bien, ils vont sur place. Ils vont sur place retrouver le lieu de naissance des grands-parents, par exemple. Et ça, c'est un phénomène, mais que je découvre de plus en plus. C'est-à-dire une génération qui n'a pas eu de lien direct, en fait.
Alors, c'est plus des racines, là.
Et qui retourne comme par hasard, et comme par hasard au moment où ces personnes n'existent plus, quoi, sont plus en vie. Ce qui est étonnant, quand même. C'est étonnant. Mais c'est vrai qu'on peut... Il y aurait à deviser là-dessus.
Voilà, donc là, j'ai traité ce thème du logement. Je pense que dans les prochains thèmes, on traitera de la nationalisation française, des métiers, et puis du retour en Italie. Parce que je vois, par exemple, Madame Gandolfi, je crois que c'est sa mère qui y retournait, et son père n'y allait pas. Donc on voit mes parents, ma mère était italienne, mon père était français, donc ils y sont retournés 28 ans après sa venue. Mais...
Puis tu as des gens qui retournaient régulièrement, d'autres pas du tout.
Il y en a, c'était tous les ans en vacances.
Moi, je connais le cas que je connais le mieux, et qui, tout en étant né, est venu bébé tout petit, ils sont retournés quasi 50 ans après. C'est étonnant. Les retours, alors les retours et la naturalisation, là aussi, il y a des choses très drôles parfois, d'ailleurs, parce que dans les mêmes familles, on se trouve avec des frères et sœurs qui n'ont pas la même nationalité. C'est assez fort. Hein. Et puis, je ne parle pas de ceux qui ont pris la nationalité française par mariage, notamment les femmes italiennes mariées à des Français, et puis qui un jour découvrent, c'est un cas que je connais très bien dans la famille, qui a découvert à plus de 80 ans qu'elle n'était en fait pas française. Quoi.
Ah oui.
Uniquement parce que, bon, je peux raconter l'anecdote, c'est une tante qui est venue, elle avait 2 ans, et donc née italienne, et puis elle s'est mariée autour d'une vingtaine d'années, la majorité étant à 21 ans à l'époque, elle s'est mariée, je crois, comme une vingtaine d'années, et son mari était purement français, et pas quelqu'un de naturalisé, hein. Et donc tu pouvais acquérir la nationalité par le mariage, on pensait d'office. Et puis, c'est une personne qui n'a jamais voulu voter, bref. Et puis, son mari est décédé, et au décès de son mari, il a fallu faire des tas de papiers, et les enfants, demandent quelques extraits, et tout. Et on lui dit, à Nantes, mais puisque c'est le centre de tout ce qui est papier de naturalisation et autres, mais votre maman n'est pas française. Elle n'est pas française. À plus de 80 ans, elle a découvert qu'elle n'était pas du tout française. Parce que, en fait, cette fameuse possibilité existait, mais il fallait la demander. Tu devenais français par mariage, on te l'accordait, mais il fallait quand même en faire la demande. Ce que ni lui ni elle n'avaient fait. Et alors, par humour, je lui disais qu'un charter l'attendait pour repartir en Italie. Voilà. Enfin, il y a des histoires comme ça, très touchantes d'ailleurs, hein, ouais. Parce que on en plaisante de tout ça, mais il y a eu des vrais, on voit dans nos interviews, et c'est bien rendu dans ce qu'a fait d'ailleurs Micheline. Il y a des vrais moments d'émotion et dur, c'est quelquefois dur de parler de tout ça.
Moi, il y a deux interviews, les gens pleuraient au début. Quoi,
oui, ils ont du mal à sortir des choses et qui pour eux ont été finalement terribles. Bon, mais on va finir par une chanson. Alors, une chanson là, qu'on va dire immigration politique, c'est-à-dire que c'était une chanson qui a été composée par Alfredo Bandelli dans les années 70. Alors c'était un cantautore et auteur-compositeur-interprète qui a disparu maintenant, mais qui était un militant politique. Et là, ça se sent très nettement dans les paroles de sa chanson, toujours chantée par la compagnie dont on parlait tout à l'heure, Delle Acque. Et les immigrants s'en vont, ils partent pour l'Europe sous le regard de la police. Les immigrants s'en vont, ils partent pour l'Europe. Eux, les déportés de la bourgeoisie.
Ah oui.
Très clair. Hein. Voilà, donc c'est notre dernière chanson du jour. On vous souhaite à tous une bonne soirée et un bon mois à venir.
Prochain.
Et au mois prochain, au revoir Laurent, au revoir Serge.
Au revoir Laurent, au revoir Alain.
Non piangere, oh bella, se devo partire, se devo restare lontano da te. Non piangere, oh bella, non piangere mai, che presto lo sai, ritorno da te. Addio alla mia terra, addio alla mia casa, addio a tutto quello che lascio qua giù. O tornerò presto, non tornerò mai, soltanto i ricordi io porto con me. Le notti son lunghe, non passano mai, e non posso mai averti per me. Soltanto fatica, violenza e razzismo, ma questa miseria coscienza ci dà. Consumo le mani e mi cresce la voglia, la voglia di